Il y a la chaise, on peut y aller, voilà. Bien. Bonjour, alors j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le professeur Ishikawa Hajime, qui nous est pas tout à fait inconnu, puisque c'est la deuxième fois qu'il vient à Paris faire une série de cours sur la poésie japonaise. La première fois, c'était il y a une douzaine d'années à l'École pratique des hautes études, et maintenant, c'est au Collège de France. Comme vous le savez, sans doute, le professeur Ishikawa est une des plus grandes autorités japonaises vivantes sur JN en tant que poète. Alors, il faut d'abord présenter JN avant le professeur Ishikawa, peut-être, mais ce n'est pas devant cet auditoire, bien sûr, mais pour les gens qui écouteront ces conférences. Donc, JN, qui est né en 1155, mort en 1225, est l'un des personnages vraiment centraux de la vie intellectuelle de la fin de Heian, du début de Kamakura. Et il a vraiment son personnage. Sa persona, même dirait-on, présente trois facettes tout à fait différentes et qui sont généralement étudiées de façon indépendante. C'est à la fois un poète très connu, peut-être pas le plus apprécié des connaisseurs de la poésie japonaise, mais qui est quand même une position, comment dire, c'est à la fois la conclusion d'une période et la naissance d'une autre, sa poésie, en particulier pour ce qui concerne la poésie bouddhique, par exemple. Mais c'est aussi celui que l'on considère parfois comme le premier, je dirais presque philosophe de l'histoire japonaise, puisque dans son travail qui s'appelle intitulé Gukansho, que j'ai traduit par un essai sur l'histoire. Il a essayé d'expliquer l'histoire tourmentée du Japon de son temps par à la fois une philosophie de l'histoire fondée sur une vision bouddhique du monde. Et puis c'est aussi un homme politique. Il était proche, par sa famille évidemment, des milieux de pouvoir, et lui-même était tout à fait a été l'intime de l'empereur Gotoba et de sa tentative de restauration malheureuse. Un homme politique très habile, puisqu'il a réussi à être bien en cour des deux côtés, à la fois du côté impérial et du côté shogunal. Donc ce poète que l'on étudie souvent de façon indépendante de chacune de ces phases, et maintenant étudiée de façon beaucoup plus synthétique par le professeur Ishikawa, qui est avant tout un grand philologue et histoire de la littérature, avec le professeur Yamamoto Hajime, n'est-ce pas? On parle des deux Hajime. Il a publié la poésie complète, les œuvres poétiques complètes et les textes en prose. Ayant rapport avec la poésie, en deux volumes, une édition qui fait maintenant autorité. Il a lui-même, le professeur Ishikawa, a par ailleurs publié de nombreuses monographies et des articles sur JN. Il était professeur à l'université de Hiroshima, il enseigne maintenant à Nara, et il vient de nous faire part de lui aussi à plusieurs phases, dans facettes de sa personnalité académique. Et maintenant, il s'est lancé, comme vous le voyez, dans l'étude des rapports de la poésie de Jien et de la dogmatique du Tendai, puisque Jien était le plus grand, a été le nommé 4 fois le patriarche, le grand Zazu de l'école Tendai. C'était l'une des plus hautes autorités dogmatiques du temps. Et évidemment, que l'on lise le Gukansho ou la poésie générale de Jien et ses poèmes bouddhiques en particulier, c'est Shakyoka, on voit l'importance que la dogmatique du Tendai a chez lui. Alors, le professeur Ishikawa consacre ses 4 conférences à ce thème. C'est en quelque sorte un galop d'essai pour un événement qui aura lieu à Paris en 2020, puisque nous organiserons à ce moment-là la conférence internationale d'études Tendai de Paris. Ce sera la deuxième du nom, la première ayant lieu en 1995. Il y en aura une autre donc en 2020, qui sera entièrement consacrée à JN, JN comme moine Tendai. Donc nous avons en quelque sorte le terrain d'essai de ce que nous présentera M. Ishikawa à ce moment-là. Alors avant de commencer ces conférences. Comme le veut la tradition du Collège de France, je vais lui remettre la médaille de bronze. Voilà. C'est une médaille de ce que je connais. Ça, c'est mon ami qui s'en est animé. Voilà. Et sous la protection de Guillaume Budet, nous allons maintenant laisser parler le professeur Ishikawa.
Mesdames et messieurs, je m'appelle Hajime Ishikawa. Je suis professeur de l'Université de Nara. Je suis très honoré que le professeur Jean-Noël Robel m'ait invité pour faire cette conférence au Collège de France. Durant cette conférence, je vais vous présenter une œuvre composée de cinq poèmes Jean qui est un poète de l'époque Saint-Coquenne et sa théorie sur ses profils poésie. En plus d'être poète, Jean était aussi le grand prêtre de la secte Tendai. Ce n'est pas facile d'expliquer sa théorie parce que ce pensée fonde sur l'étude des préceptes de la secte Tendai. Alors, je vais maintenant parler en japonais pour être plus précis.今回の講義は、ロベル先生のお話、紹介にもありましたように、新古今歌人の一人であるジエンについて考察するというものです。ジエンは愚管抄の作者で有名ですけれども、新古今和歌集の、中に取られた百首、取られた歌の数がですね、92首、1位の作業が94首ですから、もうほとんど1位に差がないぐらい、新古今歌人として評価をされているという人物であります。その慈円の歌論としてまとまった散文が、終局集の中に、あります。終局集第五条書斎散文という、面倒な名称で分かるように、この第五条の条というのは、袋閉じだと第五巻というふうに言うんですけど、これ絶頂草という閉じ方、本の閉じ方ですけれども、終局集の第五条に、載せられている散文という意味です。で、この文章の中に、何らかの百首を50番歌合わせにしたっていうことが書かれているのですが、その内容とか著作の時期などがまだ不明とされているものです。で、これまで新古今集の研究者がこの散文についてさまざまな論を展開しておりますが、まだ通説というものには至っていないわけです。今からおよそ40年ほど前に、先ほど名前出ましたが、山本はじめという、金沢大学の教授が平安末の寿永百首頃の恋百首、恋に関する百首という定数化に関連づけてこの散文を検証しようとしましたが、まだまだそれでも実態が不明のままで、逆に、恋百首歌合わせの罰という呼び名だけが一人歩きした感がありますので、今回はその反論を試みたということです。今回慈円の著作やそれ以前の天台経学の系譜を 痛感することによって、この三文が天体教学の論理に即して形成されているということが検証できましたので、その内容を話してみたいと存じます。大変長い三文なので、7つの文章に分けた上で、その要点ごとに考察していきたいと思います。
Notre conférence d'aujourd'hui va porter sur la poétique proposée par J.N., religieux et poète, comptant parmi les plus importants du Shinkokin Wakashu, le nouveau recueil des poèmes de jadis et naguère. J.N. est certes, comme on l'a dit dans la présentation, l'auteur du Gokanshu, mais c'est aussi un poète de premier ordre avec, selon les éditions, 92 ou 94 de ses poèmes repris dans donc, le fameux nouveau recueil de poèmes de jadis et naguère. Un texte en prose en particulier présente de manière ramassée les conceptions poétiques de J.N. Il s'agit de ce texte au nom un petit peu difficile, n'est-ce pas, le Shugyokushu Daigojo Shosai Sambun, soit la prose contenue dans le cinquième volume du Shugyokushu, texte dont la date d'écriture nous est inconnue, comme donc ce nom quelque peu compliqué peut nous laisser présager. Aucune des hypothèses émises sur ce point par les spécialistes du Shinkokinshu ne fait l'unanimité à ce jour. Un chercheur qui a été nommé en passant lors de la présentation, M. Yamamoto Hajime, avait tenté un examen de cette pièce, il y a près de 40 ans, en faisant le lien avec la forme appelée Koihakushu, soit centurie de poèmes d'amour, que l'on trouve à la fin de l'époque Heian, à l'époque de la centurie de Jue. Mais alors même que cela n'avait pas permis véritablement de déterminer la nature de notre pièce en prose, le nom de postface à un concours de centurie de poèmes d'amour est resté à cette pièce en prose, ce contre quoi, dans cette conférence, nous voudrions nous élever aujourd'hui. La conférence d'aujourd'hui sera consacrée à un survol des doctrines Tendai, afin d'en faire apparaître l'importance pour la formation de la pensée exprimée dans le texte de Jien, dont nous examinerons ensuite le contenu. Le texte en question étant relativement long, on le divisera en 7 parties, dont on glosera les points principaux l'un après l'autre.
この和語という言葉は日本の言語という本来的な意味がありますけれども、この文章では特に大和歌、和歌ポエムスと同義で用いられております。で、このことわざというのは古今和歌集のかな序では、人間のさまざまな生活の栄意を示しておりまして、本論ではそれに触発具象化された言語の義芸のことで、和歌そのものを指すことになります。で、和歌の五七五七七という句数が5つが五代五行に通じ、それに集約される世界の一切が和歌の中に包摂されるのだということが書かれています。で、この五代は万物の構成元素である地、水、火、風、空というものを言いまして、その五代を離れたものはないという身体、Absolute Truth は小義定とか第一義定とも言って、で、究極の立場での真理のことを示します。また五行は陰陽道で説く気、火、土、金、水の5つの元素を言います。で、その五行を離れたことがないという俗体、Mundane Truth と書いてますが、俗体は世帯とか世俗体といい、世俗的な立場での真理を指します。で、これによって万物が構成され存在すると言います。で、この身体と俗体が究極には相続の関係、究極的には一致するという意味です。すなわち二体一如、2つの身体と俗体が一致するということで、二体一如 親族に相続あるいは二体一女などと申します。でこの二体一女は古来中国で盛んに論じられており、古くは隋とか唐以前の南北朝時代の大乗儀章という仏章をその例として掲げることができます。また日本でも早くから論じられておりますが、ここに言う五代について先行研究のいくつかは、パワーポイントにあります五代に皆響きあり、十回に言語をぐす、六人ことごとく文字なり、発心はこれ実相なりという弘法大師空海の生死実相義を引用して、空海から直接影響を得たと展開する論文があります。で文字がすべて実相を表す、言語すべてが真言であるという密教における考えを使って二体一女を説明するには大きな飛躍があると思われます。身体と属体という定義そのものを超越してしまうからであります。でこの身体と属体との関係を相対化しようとする思考に生死実相義を直接援用するのではなく、あくまでも間接的な示唆にとどめておくべきだと考えます。また同時にこの生死実相義を空海から直接慈円が影響を得たと考えることは全くなく、比叡山の密教の大成者である安念という日本人の僧侶がおりますが、この安念の著作真言宗経事記、またの名を経事問答とも言いますけれども、この経事問答の巻の3巻の4にこの文章が引用されており、慈円はこの安念を通して二体一女を進化させていったと思われます。
Je vous donne lecture du passage qui vient d'être traité, que vous avez donc selon la numérotation que nous suivons ici. Ainsi donc, la langue japonaise prospère en tant que mode d'expression de notre pays. Il y a 5 vers de 5-7-5-7-7 syllabes, lesquels doivent exprimer les 5 éléments et les 5 agents. De l'authentique comme du vulgaire, il n'est nulle chose qui en soit séparée. Pour la vérité authentique, il n'est rien qui soit séparé des 5 éléments. Cela va des corps de Bouddha jusqu'au végétal inanimé. Pour la vérité vulgaire aussi, il n'est rien qui soit séparé des 5 agents. Cela va du ciel et de la terre jusqu'aux mers et aux montagnes. Le terme de Yamato Kotoba, utilisé ici, renvoie à la langue japonaise et est si fréquemment utilisé, en équivalence avec Yamato Uta, littéralement la poésie japonaise. Quant au terme de Kotowaza, rendu ici par mode d'expression, celui-ci désigne dans la préface du Shinko Kinshu les actions humaines dans leur ensemble. Mais ici, il renvoie au waka, à la poésie japonaise, comme art et comme technique d'actualisation de la langue qui se produit en réponse à quelque chose. La métrique en 5 syllabes du waka, en correspondance avec les 5 éléments bouddhiques et les 5 agents de la cosmologie chinoise, fait de cette forme poétique un résumé de la totalité du monde que la poésie parvient à subsumer. Les 5 éléments bouddhiques sont les éléments qui composent l'ensemble des choses, la terre, l'eau, le feu, le vent et le vide. La vérité authentique, Shintai, qui veut que, je cite, « rien ne soit séparé des 5 éléments », est appelée Shogite, vérité doctrinale suprême, ou Daichigite, première entre les vérités doctrinales. Il s'agit de la vérité ultime, prise du point de vue de l'absolu, une vérité ultramondaine donc. Quant aux 5 agents, il s'agit selon la cosmologie chinoise des 5 éléments fondamentaux que sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. La vérité vulgaire, Zokutai, sans laquelle rien n'est séparé des 5 agents, est aussi appelée Seetai, vérité du monde, ou Seizoktai, vérité séculière, et il s'agit de la vérité du point de vue mondain, la vérité non religieuse. Les choses n'existent que parce qu'il existe ces éléments qui leur donnent forme. On a ici affaire à l'idée de l'identité des deux vérités, Nitai Chijo, selon laquelle, ultimement, il existe une relation d'équivalence entre ces deux vérités, authentique et vulgaire.
Cette identité des deux vérités a fait l'objet de discussions dans la Chine ancienne, comme le montre un ouvrage aussi ancien que le Da Sheng Yi Zhang, le traité sur le sens du grand véhicule, qui traitait déjà de la question à l'époque des dynasties du Nord et du Sud, avant les époques Sui et Tang. Cette pensée se retrouve aussi très tôt dans l'histoire du Japon. Quant aux cinq éléments, de nombreux travaux de recherche y voient une citation et donc une influence directe du texte de Kukai intitulé « Shōji Jisōgi, le sens des phonèmes, des graphèmes et de la réalité », selon lequel, je cite, « Les cinq éléments ont tous des résonances, les dix plans d'existence sont tous pourvus de leur langue, les six poussières sont toutes, tant qu'elles sont, l'être d'écriture, le corps de loi et l'aspect réel. » On peut dire à ce titre qu'il y a un saut logique entre l'idée de l'ésotérisme qui veut que les signes expriment tous l'aspect réel, idée selon laquelle la langue est entièrement faite de dharani, de formules magiques, et l'idée de l'identité des deux vérités. Cela parce que nous sommes ici déjà au-delà de la définition de la vérité authentique et de la vérité vulgaire. Il nous semble que si nous voulons examiner la tentative de relativisation de la différence des deux vérités, il n'est pas nécessaire de se référer directement au texte de Kukai, même si l'on peut y faire allusion en passant. On peut penser en effet que ce n'est pas tant le texte même de Kukai qui a influencé Jien dans son approfondissement de l'idée d'identité des deux vérités, mais plutôt les éléments de la doctrine de Kukai qui sont repris dans les livres 4 et 5 de la somme ésotérique compilée par Annen, intitulé Shingonshu Kyojigi, soit la division en doctrine et époque selon l'école Shingon à travers le temps. Oui.
え、和歌は我が国の風俗なりという言葉です。インドにおける母語、中国における漢字、我が国における和歌の比較、つまり3つの国の言音、三国言音の中での和語の優位を説いているわけです。 で、この三国言音説については、慈円の式大百首という伊勢神宮崩落の百首の序文に、三国の言音異なるといえども、編集の和字他を治むるかと述べています。また、慈円が門跡でありました少蓮院に、 存在している少蓮院文書の中に毎日守られるべき時刻次第という資料の中に辰巳の時御盆寺御手習いなど文字般若は御書本王の制するところなり三国の字異なれども国技に通ずること同じなり 盆寒は3時、まず御練習、不可説の御務めなり。また、猿の時、先ほどの辰巳の時っていうのは朝の9時ですが、この猿の時というのが夕方の16時です。この猿の時に、また御盆寺、宅間並びに研修語学門、 司教御事の仏説、天台の妙訳の名目というふうに見えます。この資料は今まで書かれた年次が不明とされてきましたが、署名の老僧、先の大僧正寺院と、この御務めとか御盆寺とかの御という丁寧語の言葉遣いから、御徒場院の王子である 朝日と神王、同格と言いますが、この同格に中心したものと思われます。この朝日と神王は上元2年、1208年に慈円の吉水坊に入室しております。盆寒話の3時、まず語学集という三国言音説も 内外城にできませんけれども、四字五経の仏説も講述しますが、25方便を称ずるものとして看過できないと思われます。ここでも慈円に影響を与えた前述の安念は、同じく真言宗教辞儀の中で 三国の原音はすべて真言であるという考えを展開しております。
Nous passons à la deuxième partie du texte. Aussi, au royaume du grand Yamato où le soleil est au zénith, après que la fertile plaine des roseaux eut été dégagée et ouverte, l'auguste langue des dieux y fut transmise. Et en dehors de cela, il n'est nulle parole qui la précéda. Cependant, les écritures des langues de l'Inde et de la Chine non plus ne sont point à dédaigner. C'est par leurs traces que l'on comprend la voix de Bouddha. Pourtant, au royaume de Cathay, on n'utilise pas les lettres brahmiques. La doctrine de Confucius et la voix de la composition littéraire sont certes importantes, mais séparément du parler du Yamato, on ne comprend point leur sens. Comment les prendre à la légère sous le prétexte que les gens de ce royaume ignorent les caractères chinois ? Les diverses divinités de l'auguste âge des dieux, la geste des 15 générations de souverains qui ont précédé l'impératrice Jingu, faudra-t-il n'en faire nul cas, sous prétexte que l'écriture de Cathay ne nous avait pas encore été transmise ? Si l'on réfléchit à ce principe, les gens de ce royaume n'ont pas le moins du monde à estimer que la voix de la poésie japonaise, sous le prétexte qu'elle est étrangère aux lettres de Cathay, soit secondaire. Il ne s'agit que de coutumes de pays divers, il n'y a pas lieu d'y ajouter supériorité ou infériorité. Ici, Jien soutient que la comparaison entre la langue de l'Inde, de la Chine et du Japon, que dans cette comparaison, pardon, cette dernière, la langue du Japon, doit sa supériorité au statut de la poésie japonaise, coutume particulière du pays. Sur les langues des trois pays, l'Inde, la Chine et le Japon, Jien écrit dans la préface de sa centurie sur le thème des quatre saisons que, même si les langues des trois pays sont différentes, les lettres de ce pays, du Japon, englobent sans doute les autres écritures, à savoir brahmique et chinoise. On lit encore dans un document du Shōren In intitulé « Horaire journalier qu'il convient de respecter », je cite « Aux heures du dragon et du serpent, soit de 7 à 11 heures du matin, exercice d'écriture des lettres brahmiques, soit sanscrites. La sapience des lettres, nous dit-on, fut établie par Brahma au commencement de l'âge cosmique. L'écriture des trois pays est différente, le fait qu'elles fassent passer le sens qu'elles ont dans chaque pays est semblable, ce qu'on peut comprendre aussi à travers les pays, leur sens est semblable. Ainsi, l'exercice dans ces trois écritures, indienne, chinoise et japonaise, est une tâche qu'il n'est pas besoin d'expliquer. On y lit encore, à l'heure du singe, entre 15 et 17 heures, exercice de lettres brahmiques et étude de la religion exotérique. La prédication de Bouddha en fonction des quatre doctrines et des cinq époques et la liste des remèdes merveilleux du Tendai. On ignore encore la date d'écriture de ce texte, mais la signature, le vieux moine ancien grand archevêque Jien, et le style suggèrent qu'il s'agirait d'un document adressé au fils de l'empereur retiré Gotoba, le prince de sang Asahito, appelé Dokaku de son nom religieux. Le prince de sang Asahito en question est entré à l'ermitage de Yoshimizu au 10e mois de l'an 2 de l'ère Jōgen, soit en 1208. Dans notre enquête, il convient de prendre acte de l'existence d'un tel exercice des trois écritures. Et quant au prêche des quatre dogmes et des cinq époques, il s'agit d'un point en lien avec les 25 expédients, doctrine centrale dans le bouddhisme Tendai, et nous y reviendrons un petit peu plus tard. Sur ce point, Annen, dont nous avions dit qu'il avait influencé Jien, développe dans le Shingonshu Kyojigi l'idée selon laquelle les langues des trois pays sont toutes des Dharani, et donc l'influence sur Jien est bien entendu tout à fait envisageable.
我が国のことわざなれば、ただ歌の道にて仏道をもなりぬべし、また国を治められると、ルルなりと、仏のお口から出た梵語と和語との同一性を説いております。我が国の風俗なので、和歌の道は仏道に通じ、国を治める道ともなると述べております。次に掲げた隋の天台大師智義の法華原義、また華鍾大師吉蔵の忍の般若教祖や唐の丹念の四官奉行伝、苦血など多くの仏書に二体一如が古来、煩悩即菩提に置き換えることができると言っております。例の安念の大蔵金剛菩提真偽真偽略問答書の菩薩が未だ成仏ならざる時菩提をもって煩悩となし、菩薩が成仏せしときは煩悩をもって菩提となすと という言葉は極めて示唆的と言えます。特に日本では鎮護国家、すなわち国を正しく治めるために仏教を活用するということが基本でありますので、二体一条はそのまま仏法、則、王法とも置き換えることができるとするわけです。伝教大師最澄は、聖を軽んじ法を重んじ、法をして救助せしめ、国家を守護せんと三家学生式に説いております。さらに慈円は日吉百衆の罰に、片山寺にこもりいてはただ二体の道理より他に思い続くることなし、その道理を歌に読まんと思いけるなるべしとし、和歌すなわち、仏道、和歌即仏道と置き換えているわけです。しかし、和歌を単なる言語文化における表現というふうにさまつに、これは対極でないという意味ですけれども、さまつに捉えると、浅香山の山の井よりも浅く、梢の蝉の衣よりも薄くなどという比喩的表現だけが強調され、その真意が伝わらないと謙遜の弁も補足しております。
À la limite, c'est la langue brahmique des paroles authentiques, puisque ce sont mots issus de l'auguste bouche du Bouddha que ceux qui se tournent vers la voie bouddhique doivent reconnaître comme intention originelle. Lorsque l'on fait des lettres syllabiques japonaises sur les caractères chinois, on ne dépasse pas non plus 47 syllabes, ce qui nous fait dire que la langue brahmique est tout de même plus proche, voire semblable, à la langue du Yamato, ce qui est exprimé par les caractères chinois poterie, ce qui est exprimé par les caractères chinois poterie sera dit en japonais kawarake, et le caractère chinois arc sera dit encore tarashi. Nombreux sont les cas de ce genre.
Je précise ici que Jien cherche à montrer que ces mots ressemblent aux mots de la langue sanscrite.
Nous pourrions donc dire que c'est semblable à la langue brahmique, dans l'Inde céleste. Puisqu'il s'agit du mode d'expression de notre pays, c'est par la seule voie de la poésie japonaise que doit pouvoir se réaliser la voix de Bouddha, de même qu'elle permet de gouverner le royaume. Parler de la poésie japonaise tout en s'égarant sur ce principe, c'est penser de façon plus superficielle que les sources du mont Asaka, de manière plus grêle que les mues des cigales sur les rameaux de l'été. Ce n'est rien d'autre que tourner le dos au principe et contredire le vrai. Si l'on tient cela pour billefesé, que l'on entende au moins nos arguments. Ce passage, ainsi, affirme l'identité du japonais et de la langue sanscrite comme parole directement sortie de la bouche du Bouddha. On peut voir que dans bon nombre de textes bouddhiques, la notion d'identité des deux vérités peut être remplacée sans modification de sens par celle de l'équivalence des passions et de l'éveil. L'idée que les passions, bonno en japonais, klesha, ou klesha en sanskrit, sont précisément l'éveil, bodai ou bodhi. C'est le cas à l'époque Sōe, par exemple, de l'extrait du Fa Hua Xuan Yi que vous voyez ici. Donc le Fa Hua Xuan Yi, soit le sens profond ou sens mystique du Sutra du Lotus, l'œuvre de Zhe Yi, le patriarche du Tiendai. C'est aussi le cas du commentaire au Sutra de la perfection de sapience des rois vertueux de Zizang et, à l'époque Tang, du Zheguan Fu Xing Zhuang Kuo Jue, soit les notes des réponses orales portant sur les notes complémentaires de la somme de contemplation de Jianran. À cet égard, il est un passage particulièrement suggestif dans le Taizo Kongo Bodai Shingi Dyakumon Dōshō, soit les dialogues abrégés sur le sens de la pensée d'éveil à partir du mandala du plan d'éveil et du plan de diamant. Ce passage, disais-je, particulièrement suggestif est le suivant. Quand le Bodhisattva n'est pas encore devenu Bouddha, il tient l'éveil pour passion, et une fois devenu Bouddha, il tient les passions pour l'éveil. Au Japon, où le bouddhisme est fondamentalement perçu comme une religion de protection de l'État, il est tout à fait possible de substituer à l'expression de l'identité des deux vérités celle d'équivalence de la loi bouddhique et de la loi impériale. Saicho dit ainsi dans ses règles pour les clercs de montagne, « Si l'on fait peu de cas de la vie et grand cas de la loi, on fait durer la loi et l'on protège l'État. » Quant à Jien, la postface de la centurie du sanctuaire de Hiyoshi, écrite en l'an 2 de Kendaku, soit 1212, nous dit que, je cite cette postface, Jien s'était enfermé au Hensanji, où il ne faisait rien hormis réfléchir constamment au principe des deux vérités, raison pour laquelle, sans doute, il voulut transposer ce principe en poésie. Passage où l'on voit encore, dans un nouveau type d'équivalence, cette équivalence du waka et de la voix de Bouddha. Il convient donc de ne pas prendre le waka pour une simple expression de culture langagière, car alors on risquerait, justement, comme le dit Jien, de penser de façon plus superficielle que les sources du mont Asaka, de manière plus grêle que les mues des cigales sur les rameaux de l'été.
この和歌、和語と呼ばれるこの和歌が、我が国のことわざであるとか、身体を表す、俗体を表すという、まだ触りの部分だけでありますが、次回は、この文章の後半部分、特に自演歌論の中心をなす和歌俗仏道について話を進めたいと思っております。
Quatrième partie du texte. En effet, aux quatre orients du mont Somero, donc, se trouvent quatre pays, et parmi eux, le Jambudvipa méridional où apparut le Bouddha. En ce continent sont des royaumes nombreux et variés, à commencer par l'Inde céleste. Tous sont pour sûr différents par leur langue. Le Bouddha, en apparaissant seulement dans ce royaume, a enseigné les aspects et modalités des 25 formes d'existence mondaine et extramondaine, à commencer par la terre pure. Le préfet monacal Genshin de Leshin-in reprit cet enseignement dans les écrits qu'il laissa. Il nous y enseigne à nous séparer avec dégoût de ce monde souillé, contaminé par les passions, et à appeler de nos voeux la terre pure où l'on réalise l'éveil. Il nous révèle ainsi que les quatre doctrines et les cinq périodes sont au centre des enseignements. C'est donc une joie réelle que de naître justement en ce royaume. Mais comment pourra-t-on alors réaliser cet éveil ? Comment encore pourra-t-on se séparer de ce monde souillé ? En décrivant les bodhisattvas originellement convertis par le Bouddha Shakyamuni surgissant de la terre sous l'aspect de vieux enfants, il est dit qu'ils aspirent aux endroits tranquilles et avaient renoncé au tumulte des grandes foules. Ainsi donc, celui qui avait réfléchi profondément et en toute sincérité à ce principe, mêlé qu'il était à la poussière des splendeurs de la capitale profondément contaminée des couleurs aimables, se mit au service de l'ermite Asita, sans jamais oublier les fruits d'automne qu'il devait en retirer. Sur les traces des grands maîtres qui propagèrent la loi du Bouddha, celui qui pria pour la bénédiction de l'arbre que j'ai planté et celui qui entra, comme on le sait, en concentration sur le mont Koya, furent malheureusement les seuls en notre pays. Le Jambudvipa est le nom du continent où est apparu le Bouddha. Sur ce continent, tous les pays, dont le pays de Tenjiku, littéralement Inde céleste, ont des langues différentes, mais ils bénéficient tous du salut offert par le bouddhisme. Liant le Yamato Kotoba au sanskrit, Jien tente également de prouver le caractère sacré du japonais. Il utilise pour cela l'argument de la proximité phonographique du japonais et du sanskrit par opposition au chinois, langue idéographique. En faisant remarquer que le Bouddha est apparu en Inde et qu'il a divisé les êtres en 25 formes d'existence selon la dimension où ils renaissent, Jien invite à suivre la voie de l'éveil ultime. En ce qui concerne les 25 formes d'existence, on y trouve des allusions chez Genshin, dans son ouvrage sur le rituel des 25 samadhis, et dans le compendium de la Renaissance en Terre pure, œuvre qui invite à se séparer avec dégoût de ce monde souillé et à appeler de ses voeux la Terre pure. Donc, l'idée qu'on a vue dans ce texte de Onli Edo, Gongujo Odo, soit prendre en dégoût la terre de souillure et se mettre en quête de la Terre pure. Quant aux bodhisattvas, originellement convertis par le Bouddha Shakyamuni et qui sortent de terre, il s'agit bien sûr d'une allusion au chapitre « Surgit de la terre », le 15e du Sutra du Lotus. Je cite « Ces grands êtres d'éveil, ces bodhisattvas donc, aspirent aux endroits tranquilles et ont renoncé au tumulte des grandes foules. » Le passage du, on trouve en outre un passage du Shui Wakashu, qui se rapproche d'une deuxième allusion au Sutra du Lotus, passage qui nous dit, c'est le moine Gyoki qui parle, « J'ai obtenu le Sutra du Lotus par mon service, en coupant du bois, cueillant des fruits et puisant de l'eau. » Le passage en question s'appuie bien sûr sur le 19e chapitre du même Sutra, où l'ascète Devadatta, don des dieux, impose au Bouddha une existence de serviteur exploité, comme on le voit dans certaines setsuas japonaises. Je cite le passage, « Le roi, Shakyamuni, se mit à suivre l'ermite Devadatta et subvint à son nécessaire, ramassant bois, fruits et légumes, pour les lui offrir respectueusement au moment propice. » Il est intéressant de noter que parmi les grands maîtres qui propagèrent la loi du Bouddha dont parle Jien, Jien cite Saicho, appelé « celui qui pria pour la bénédiction de l'arbre que j'ai planté », et Kukai, celui qui entra, comme on le sait, en concentration. Ainsi, nous avons aujourd'hui parlé de cette première partie du texte. Nous traiterons la deuxième et dernière partie la semaine suivante, et nous parlerons à cette occasion de cette idée de Jien de l'équivalence entre le waka et la loi bouddhique.
je remercie le professeur Ishikawa d'avoir d'abord été très attentif à garder les limites de temps. Nous avions prévu, nous avions prévu plus longtemps, mais il a intégré la durée de la traduction dans la durée de son intervention propre, ce qui nous laisse un peu de temps pour la discussion et les questions. Et je remercie aussi tout particulièrement Arthur de France, notre jeune ami Arthur de France, d'avoir si brillamment traduit ce texte difficile. Alors, comme vous le voyez, M. Ishikawa commence bien, comme il l'a promis, de traiter de la dogmatique du Tendai dans la poésie de J.N. en se fondant sur un texte tout à fait central de J.N. qui est ce qui s'approche le plus au plus près de la définition d'un texte théorique, où l'on voit J.N. exposer ses idées sur les rapports entre les trois langues, le sanskrit, le chinois et le japonais, pour faire passer en quelque sorte par-dessus le dos du chinois le japonais à un statut de langue sacrée, ou en tout cas d'une langue auréolé d'une puissance qui le rend plus proche de la langue brahmique, donc du sanskrit, que du chinois. Il se fonde sur une analogie du système d'écriture et sur une analogie de vocabulaire. C'est l'un des premiers à avoir établi quelques rapports entre le sanskrit et le chinois et le japonais, et en particulier pour le terme de kawarake qui est donné ici comme kawarake. Les linguistes, même modernes, pensent vraiment qu'il peut y avoir un rapport entre le sanskrit kapala, qui désigne la calotte crânienne, n'est-ce pas, et exactement comme en latin testa, qui veut dire une poterie, veut dire à désigner la tête, même kapala, le crâne et le pot. Alors, à partir de cela, nous pouvons peut-être lancer une discussion s'il y a des questions, des précisions ou des remarques, et sinon j'en poserai moi-même une ou deux au professeur Ishikawa. Voilà, y a-t-il des questions?